écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Bonjour à tous, Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Christophe pour le moment à la technique. Bonjour Christophe. Je suis ravie de vous retrouver en ce 10 janvier 2023 pour une année qui s'annonce riche et pleine de surprises. Bonne année, bonne santé et excellente journée à vous toutes et tous qui nous suivez et merci pour votre fidélité à IDFM Radio. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Et si vous vous lanciez le défi de pratiquer un art martial, mais pas n'importe lequel, je vous propose de découvrir le Penchak Sila, encore méconnu du grand public, mais dont nous allons tout savoir dans quelques instants. Le Penchak Sila, ses origines, sa pratique, c'est le thème de l'économie en direct aujourd'hui mardi 10 janvier. Avec à mes côtés pour en parler, Jérémy Klinko. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jacqueline.
Je suis ravie de vous accueillir dans nos studios. Jérémy, professionnellement, vous êtes directeur commercial et administratif chez Goldaya, dont vous nous direz quelques mots.
Tout à fait.
Mais vous êtes également et surtout responsable relations publiques et webmaster de l'école de Sila Défense à Damoise. Instructeur ceinture noire premier Dan Penchak Sila dans l'équipe enseignante adulte-enfant. Grâce à vous, nous allons voir toutes les facettes de cette discipline à travers votre pratique, mais aussi faire la connaissance des deux autres invités qui vous accompagnent. Parmi eux, Dave Mabungu. Bonjour Dave.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur IDFM Radio. Professionnellement, Dave, vous êtes cadre au ministère de l'Intérieur et si vous voulez nous en dire quelques mots, ce sera avec plaisir pour voilà. Mais pour le thème de notre émission, vous êtes professeur de Penchak Sila, ceinture noire 3e Dan, instructeur fédéral, responsable associatif dans des domaines sociétaux, sportifs et humanitaires. Des actions plusieurs fois récompensées puisque vous êtes médaille de bronze ministérielle de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, médaille de bronze de l'étoile civique anciennement mérite civique, médaille d'argent avec palme de la Ligue universelle du bien public, organisation d'utilité publique reconnue par l'UNESCO et les Nations Unies, officier de la Ligue universelle du bien public. Toutes mes félicitations pour ce palmarès.
Merci.
Et ce n'est pas tout, car vous êtes, je prends ma respiration carrément, président de l'association École de Sila Défense à Damoise, référent de l'art martial du Penchak Sila pour le comité départemental de karaté et discipline associée du Val d'Oise, représentation départementale de la Fédération française de karaté, membre honoraire de l'Association nationale des collaborateurs de ministres et parlementaires, secrétaire en charge des relations extérieures de la Commission des affaires étrangères. Voilà. Ah non, et j'en ai encore deux autres. Bon, je dis tout, Dave.
Vous pouvez.
Alors, membre actif de l'Association européenne de la pensée libre, délégué Afrique-Europe, comité Île-de-France, membre de l'Association franco-comorienne pour le développement et l'amitié de Moélie. Autant dire qu'après votre témoignage, le monde associatif et le Penchak Sila ne devraient plus avoir de secret pour nous.
Merci.
À vos côtés, Cécile Cassier. Bonjour Cécile.
Bonjour Jacqueline.
Merci également pour votre présence dans nos studios et de nous apporter ce volet féminin dans la pratique du Penchak Sila. Professionnellement, vous êtes manager HSE et vous nous expliquerez en quoi consiste votre mission. Et vous êtes membre de l'école de Sila Défense à Damoise. Vous nous direz pourquoi avoir choisi de pratiquer cette discipline et tous les bienfaits que vous en retirez.
Avec plaisir.
Voilà, bienvenue à tous les trois et merci d'être les invités en direct de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Et entre-temps, c'est Francky qui a repris le relais. Bonjour Francky. Avant de tout savoir sur le Penchak-Sila, je vous propose de faire un point de situation dans le conflit ukrainien avec notre conférencier, chercheur en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, Gérard Vespierre. Bonjour Gérard.
Bonjour ma chère Jacqueline.
Bonne année, bonne santé Gérard pour cette année 2023.
Écoutez, merci de votre gentillesse et aussi bonne année à vous et à tous vos invités.
Merci. Alors Gérard, ce matin, vous nous proposez de faire un point sur l'évolution de la situation en Ukraine. En décembre, avec vous, nous avions évoqué un apaisement possible dans ce conflit. Or, les pays occidentaux ont annoncé l'envoi de nouvelles armes et la France en fait partie. Que pouvez-vous nous dire de ces annonces ?
Bien, premièrement, effectivement, et pardonnez-moi le peut-être mauvais jeu de mots, une des annonces en rafale, et depuis mercredi soir, la France a annoncé effectivement qu'elle allait livrer des chars légers, donc des véhicules non chenillés, AMX 10 RC pour être précis, donc des équipements qui ont plusieurs dizaines d'années d'existence, qui sont donc disponibles sur stock, que nous pouvons envoyer rapidement en Ukraine après formation, donc des équipements, des chars légers qui sont destinés à être utilisés dans la mobilité, la vitesse, la rapidité, qui sont des atouts effectivement importants dans le cadre d'une force de manœuvre. Et donc le lendemain, le jeudi, le chancelier Scholz a lui-même annoncé conjointement avec les États-Unis qu'ils allaient, ces deux pays, envoyer également des nouveaux matériels. Donc la France n'avait pas précisé le nombre de chars AMX 10 RC et l'Allemagne a annoncé l'envoi de 40 véhicules chenillés cette fois-ci, mais non armés de canons type char, plutôt de canons automatiques à très grande fréquence de tir, et qui sont des transports d'infanterie. Donc là, il y a capacité de déplacer des troupes de façon protégée sur le front. Et donc le lendemain, le vendredi, le Pentagone a annoncé 3 milliards de dollars donc de capacité d'intervention en Ukraine en prélevant sur des stocks, donc à la fois des véhicules de même type que l'Allemagne, des systèmes qui s'appellent Bradley, qui sont donc équipés de canons à haute fréquence de tir, transport d'infanterie, 50 unités et plus de 100 unités d'un autre véhicule aussi de transport d'infanterie. Donc on voit qu'il y a là une volonté d'entrer dans une nouvelle stratégie militaire potentielle dans les prochains mois de mobilité de troupes.
Oui, et peut-être on a le sentiment à vous entendre de porter un coup fatal à la Russie, peut-être.
Bah écoutez, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas il y a là maintenant des moyens effectivement qui vont mettre plusieurs mois pour arriver en Ukraine. D'abord il faut former les équipages et puis deuxièmement il faut acheminer ces centaines de véhicules sur le front ukrainien. Donc cela va prendre effectivement quelques mois, mais potentiellement effectivement là on a une force de manœuvre conséquente qui est capable de se mettre en place.
Alors vous nous l'avez dit très justement, vous avez expliqué le rythme de ces annonces qui peuvent sembler se faire de façon désordonnée puisqu'elles se font l'une après l'autre sur plusieurs jours. Pourquoi d'après vous y a-t-il une forme de rivalité entre les pays européens et les États-Unis ?
Alors, intéressante question, effectivement, la forme de la communication peut laisser présager cela, mais quelle finalement structure s'occupe de l'aide à l'Ukraine? Vous avez une structure qui s'appelle donc les 50 pays qui contribuent à l'aide militaire, et puis en parallèle vous avez aussi bien sûr la présence et l'organisation de l'OTAN. Donc ces deux structures sont des organismes de planification. Mmh. Et donc, à partir des renseignements collectés par les vastes réseaux de satellites américains, à partir des renseignements obtenus par l'Ukraine, à partir des objectifs souhaités par l'armée ukrainienne, eh bien, l'ensemble des pays proposent des moyens adaptés pour remplir ces objectifs souhaités par l'armée ukrainienne. Il y a donc une coordination dans le développement et l'apport des moyens des pays occidentaux et aussi asiatiques. Le Japon participe, l'Australie participe. Et donc, l'annonce qui est faite est finalement une annonce ordonnée, mais elle n'est pas frontale, c'est-à-dire qu'effectivement, les dirigeants ne se regroupent pas pour annoncer conjointement, de façon à ne pas donner l'impression d'un front uni contre la Russie. Ce n'est pas du tout la situation diplomatique. L'Ukraine a été attaquée par la Russie et des dizaines de pays aident maintenant l'Ukraine à faire face. Et donc, les alliés autour de l'Ukraine donc tiennent à garder cette image d'aide solidaire, mais d'aide individuelle, coordonnée et non pas d'un front uni et, je dirais, très, très volontaire et conquérant. Et ce n'est pas du tout l'image souhaitée, d'où cette organisation jour après jour d'annonces différentes.
Alors oui, d'accord, vous avez raison de dire que chacun œuvre de son côté à son rythme pour ne pas donner cette idée d'offensive frontale, mais ces préparatifs veulent quand même, enfin, font penser à une possible offensive ukrainienne générale, ou bien est-ce qu'on peut discerner une stratégie militaire nouvelle de la part de Kiev ?
Mais écoutez, je pense qu'il y a effectivement deux sons différents à partir de ces canons, si je puis dire. Le premier, c'est une annonce à l'intention de la Russie en disant, voilà, dans quelques mois, l'Ukraine va disposer d'une force de manœuvre tout à fait redoutable. Donc, que faites-vous ? N'est-il pas temps d'envisager un cessez-le-feu et donc des négociations ? Parce que les combats risquent de ne pas du tout être en votre faveur. Donc il y a un message aussi diplomatique à cette annonce qui va mettre, comme je le disais, des mois à se concrétiser, à se matérialiser par la mise en place sur le terrain ukrainien de l'ensemble de ces moyens. Donc une première vision diplomatique et militaire. Et d'autre part, alors pour venir à la deuxième partie de votre question, oui, effectivement, il peut être tentant pour les Ukrainiens de réfléchir à une stratégie nouvelle. On a vu cette stratégie qui a été mise en place à l'automne en annonçant des frappes au sud et puis finalement en attaquant premièrement dans le nord. Donc cela, on ne peut pas le répéter. On a les Ukrainiens ont effectivement surpris les Russes, mais on ne peut pas faire ces choses-là.
Oui, reproduire à chaque fois. Ouais.
Et en regardant le front tel qu'il est, sur ces pratiquement 900 kilomètres, il y a une tentation qui peut être grande. Il n'est pas question de pouvoir attaquer sur la continuité du front. Cela mettrait en œuvre et en jeu des moyens humains et matériels énormes. Mais par contre, il peut être très tentant de couper ces 900 kilomètres de front en deux blocs, en deux parties, de casser et d'isoler donc la partie sud avec la Crimée, avec le sud de Kherson, et donc d'avoir une offensive justement très dynamique. Et on voit que tous les moyens qui ont été annoncés sont des moyens de déplacement de troupes, des moyens d'action rapide avec des chars légers, de foncer non pas vers Mariupol mais vers Mélitopol, donc de proche de Zaporijjia, d'isoler aussi la centrale nucléaire de ses ressources russes, et donc d'avoir le front coupé en deux parties et d'isoler la partie sud. Cela peut être une tentation grande pour le commandement ukrainien. Il va nous falloir attendre quelques mois pour voir si cette vision militaro-stratégique se met en place ou pas.
Merci beaucoup Gérard pour ce décryptage très pointu sur lequel nous aurons, je pense, l'opportunité de revenir et de vérifier si les faits vous donnent raison dans les semaines ou les mois à venir. Merci infiniment. Un petit rappel pour dire que vos écrits, interviews sur toute l'actualité internationale sont accessibles gratuitement sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. Il suffit de s'abonner. On se donne rendez-vous dans 15 jours, Gérard, pour un nouvel entretien.
Eh bien, écoutez, bien volontiers, et je vous souhaite une excellente matinée en compagnie de vos invités.
Merci, Gérard. Belle journée. Au revoir.
Au revoir.
Ce matin, nous parlons art martial et plus précisément du Penchak Sila. Et sans plus attendre, je vous donne la parole, Jérémy Klinko. Alors Jérémy, déjà parlez-nous de votre parcours à travers Goldaya d'abord, puis à travers le Penchak Sila.
Bonjour Jacqueline, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Merci également à Olivier Morel pour la mise en relation.
C'est vrai, Olivier est un fidèle.
Exactement. Du coup, concernant mon parcours professionnel, je travaille pour la marque Goldaya, qui est une marque de bijoux française haut de gamme, issue de la culture hip-hop et qui incite au développement personnel. La marque, elle a été créée par mon associé, qui s'appelle T. Oula en 2008.
D'accord.
On est basé à Pontoise, où nous avons un showroom où on peut recevoir justement les gens intéressés pour leur faire découvrir les bijoux, les faire essayer, leur montrer les coulisses de la marque.
Très bien.
Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 12 ans maintenant avec lui. J'étais un client de la marque à l'époque et le projet m'a plu, l'énergie.
Vous avez tellement plu que vous en êtes venu associé.
Voilà, exactement.
Bravo.
Merci beaucoup.
Le Penchak Sila, c'est un art martial que vous pratiquez depuis quand et comment l'avez-vous découvert?
Alors, concernant le Penchak Sila, j'ai découvert en septembre 2014 au Forum des associations de l'Île-Adam, là où j'habitais avant. J'ai découvert cet art martial-là à ce moment-là. Je me suis inscrit à ce moment. Ça m'a plu, donc ça fait 8 ans maintenant que je pratique cela. Donc depuis, j'ai progressé. Maintenant, je suis ceinture noire premier dan. Et au sein de l'association l'école de Sila de Défense Adamoise, je suis également le webmaster parce que ça fait partie de mes compétences professionnelles.
Oui, oui.
Et je m'occupe des relations publiques également pour développer la visibilité du club et de l'art martial en général.
Un club dont nous parlerons plus longuement avec Dev tout à l'heure, puisque j'ai cru comprendre qu'il avait une certaine importance dans le Val d'Oise. Qu'est-ce que ça vous apporte de pratiquer le Penchak Sila?
Ce que ça m'a apporté en 8 ans pour l'instant, c'est une sérénité, un développement de la confiance en soi également, au niveau de l'énergie, du bien-être, le fait d'avoir ces triggers, parce qu'on a 3 cours par semaine, le lundi soir, mercredi soir, vendredi soir, plus le samedi matin avec les enfants également, ça apporte vraiment une discipline et une rigueur qui se retranscrit après dans la vie professionnelle et inversement aussi. Et comme c'est un club familial où il y a une base très solide,
oui,
c'est des moments aussi de partage, de convivialité qu'on a également, on a plaisir de se retrouver. Au-delà de l'aspect personnel que ça peut avoir, c'est qu'il y a un aspect collectif aussi. Et on prend du plaisir, même des fois quand on peut manquer de motivation ou être un peu fatigué, etc. On sait qu'on va passer un bon moment,
oui,
et c'est important de ne pas lâcher.
Le fait de savoir que vous allez retrouver des gens avec lesquels vous vous entendez bien, c'est un plus.
C'est important, je pense, parce que s'il n'y a pas de convivialité ou qu'on sent qu'on n'est pas... Comment dire ? Bien entouré,
oui,
on peut vite abandonner, bien alors sûr, que la force du club, justement, ce qui fait qu'on a quasiment une centaine d'adhérents aujourd'hui, fait que les gens se sentent bien, en fait.
Mm-hmm.
Déjà pour eux personnellement, et comme il y a une bonne ambiance collective, ça crée vraiment un dynamisme qui fait que quand il y en a un qui est un peu moins motivé, ça peut tirer les autres vers le haut et inversement, parce que ça peut arriver de temps en temps d'avoir des coups de mou. Donc c'est vraiment ça qui est important.
Alors l'école, c'est l'ESDA, l'école de Sila Défense Adamoise, dont vous nous dites le plus grand bien. Comment s'est-elle développée, cette école ?
s'est développé alors à travers ces, depuis que j'y suis notamment. On a pratiqué beaucoup de stages ouverts au grand public, hommes et femmes. On a fait énormément de stages aussi pour la self-défense féminine, pour le public féminin. Mmh. On a participé à toutes les manifestations de la ville de Lille-Adam également, à travers le carnaval notamment, forum des associations chaque année. On a fait également des divers galas dans le département. Donc une forte attractivité, une forte présence, on va dire, au quotidien pour être à la rencontre des pratiquants, des personnes qui veulent découvrir cet art martial qui est encore méconnu de manière générale du grand public, mais à travers ces diverses actions, à force de constater qu'on a pu développer fortement le club.
Oui, oui.
Par exemple, si vous tapez Pench Axilade Valdoise ou Self-Défense plus communément sur Google, le site du club apparaît en premier. Donc on a fait un gros travail également sur les réseaux sociaux, sur Internet, le référencement de manière générale sur les moteurs de recherche, ce qui fait qu'on est devenu très visible en tapant des mots-clés que les gens tapent régulièrement,
oui.
Ou arts martiaux, valdoise, ce genre de choses. On tombe régulièrement sur nous et beaucoup d'adhérents nous découvrent également via les réseaux, enfin via Internet aussi.
D'où son apport au niveau local et puis associatif. Hein,
c'est ça, exactement.
Il y a un vrai engouement.
C'est ça, exactement. C'est ça que je trouve bien à travers l'ESDA. Il y a l'apport personnel de ce que ça nous apporte sur la confiance en soi, la maîtrise, etc. Mais derrière, il y a un projet également avec un bureau, avec Dave, avec Cécile également et d'autres personnes, bien entendu, qui fait que... En plus de juste de pratiquer un art martial, on développe un projet et c'est ça que je trouve bien et fédérateur et qui est enrichissant parce que ça permet d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être actif tout simplement et d'apporter un plus parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin aussi par rapport à ça.
Elle existe depuis quand cette école ?
Depuis 2013.
D'accord. Donc juste, vous avez démarré un an plus tard.
C'est ça, exactement.
Ouais, très bien.
Et pour vous dire, quand j'ai commencé, on était... 5-6 en cours
au tout départ.
Et maintenant aux entraînements on a en moyenne, ça dépend, mais on peut varier entre 30-40, ça dépend des périodes, mais il y a une forte progression et c'est ça qui fait plaisir à voir. Ça montre que le travail qu'on a fait toutes ces années paye, qu'on a réussi à créer un socle, une base commune. Il y a beaucoup d'anciens également, dégradés, etc. Donc il y a une base solide et quand des nouvelles personnes viennent découvrir, ils voient qu'il y a déjà un club qui est structuré avec une équipe enseignante en place, des élèves plus gradés, ce qui fait qu'on repart jamais de zéro. Il y a toujours gens pour tirer vers le haut et donc les gens peuvent rentrer facilement dans le club en fait.
Oui, je comprends. Ça veut dire aussi que vous avez beaucoup d'enseignants parce que pour 100 adhérents, il faut quand même assurer les cours.
C'est ça, exactement.
Oui.
On est plusieurs, il y a Dave et Eric justement qui sont nos professeurs justement, ceinture noire 3e Dan, et après on est deux ceintures noires 1er Dan avec Baptiste également que je salue, qui est mon binôme, et après on a des ceintures marron également qui viennent nous accompagner pour encadrer justement les différents cours, comme je l'ai dit, lundi, mercredi, vendredi soir, plus le samedi matin, les enfants aussi, qui est quelque chose de très important, de miser sur la jeunesse également pour perdurer dans le temps.
Alors, personnellement, je ne suis pas très douée en art martial, mais je vois que vous parlez de ces ceintures marron, noires, donc c'est les mêmes, est-ce qu'on retrouve ces ceintures dans tous les arts martiaux ?
Alors là, je vais laisser Dave répondre à cette question, s'il veut bien.
Mabungu, peut-être.
Oui, merci de me donner la parole. Merci à Jérémy Klinko qui a bien fait son boulot en tant que responsable de son public. Donc je le remercie, je profite des ondes pour le remercier personnellement. Effectivement, nous avons des grades similaires à ceux qui sont pratiqués dans les arts martiaux, au sein des arts martiaux traditionnels tels que judo, karaté, viet vu dao qui est... l'équivalent du kung-fu vietnamien. En fait, nos grades se font de la façon suivante. Nous avons 4 premiers niveaux qui correspondent à la ceinture jaune, orange, verte et bleue.
Oui.
Et ensuite, on a un 5e niveau qui est le niveau d'assistant et qui correspond à la ceinture marron. À partir du niveau d'assistant, il y a le niveau instructeur, donc le grade d'instructeur qui est le niveau ceinture noire. Et à partir de là, on passe les premiers, deuxième, troisième dan. Et à partir de troisième dan, on est professeur.
D'accord, très bien. Oh,
voilà.
Oui, mais j'imaginais que ces ceintures n'étaient attribuées qu'au karaté, vous voyez. Donc, pour vous dire que j'étais vraiment très loin de la vérité. Merci, Dave, pour cette précision.
Je vous en prie.
Jérémy, je reviens vers vous. Donc aujourd'hui, donc cette école, on a compris, fonctionne bien, a beaucoup d'adhérents. Et cependant, vous êtes quand même toujours à la recherche de sponsors et de mécènes pour assurer sa pérennité.
Bah également, oui, parce que je pense que dans le développement d'un club ou d'une association, c'est important justement. Ça montre une solidité. Et pour l'instant, on n'en a pas encore. Et on a réussi à se développer sans. Donc c'est très bien.
Oui.
Mais comme le but, c'est de continuer à se développer, prospérer, être davantage visible, faire connaître l'art martial en général, bah c'est important d'avoir des soutiens de poids derrière également qui peuvent venir appuyer pour éventuellement l'organisation de manifestations diverses, des galas des arts martiaux ou autres, pour continuer à développer l'art martial du bench axilat en général.
Ouais. Vous souhaiteriez avoir un dojo plus grand pour l'entraînement. Est-ce que la ville de l'Isle-Adam a entendu vos doléances?
Alors concernant ce point-là, effectivement, on est dans un mini dojo, donc quand on est 30 ou 40, ça peut être compliqué parfois. La ville de l'Isle-Adam est au courant.
Oui.
On leur a fait remonter les informations, ils sont très, très informés à ce sujet et on attend une réponse de leur part à ce sujet. Donc
oui,
la balle est dans leur camp.
Oui, parce que dans la mesure où vous avez un vrai succès, ils ont tout intérêt à vous favoriser. En tout cas,
exactement.
Vous croisez les doigts.
Bah voilà, donc on fait ce qu'il faut en tout cas nous pour voilà, on montre qu'on est actif. On s'investit beaucoup au niveau local aussi. Voilà, c'est important de jouer le jeu et on le fait vraiment avec plaisir. C'est pour ça que même la section enfants est née il y a un peu plus de 2 ans maintenant pour répondre à une forte demande des parents également qui nous demandaient est-ce que vous avez un cours enfant, chose qui n'existait pas auparavant. On accueille les enfants à partir de 8 ans.
Oui.
De 8 ans jusqu'à 14 ans. Après, c'est le cours adulte. C'est le samedi matin de 9h jusqu'à midi. Donc, qui a un réel succès aussi, puisqu'on a une base d'enfants qui reviennent de chaque année. Donc, on est vraiment très satisfait. C'est des jeunes qui progressent bien, qui sont comme des éponges, parce qu'ils absorbent vraiment tout ce qu'on leur enseigne. Et le but pour nous, c'est de les voir ensuite venir chez le cours des adultes dans quelques années, avec une base solide, et ça seront les piliers de demain, en fait.
Oui, absolument.
Donc, c'est
absolument
important de s'inscrire dans...
Oui, une belle transmission.
Exactement.
Alors, cette école, cette discipline, elle est connue en France. Dans toute la France, est-ce que vous faites partie des plus grosses écoles en termes d'effectifs? Il y a combien de... En tout, en France, il y a combien à peu près d'adhérents qui pratiquent le pench axilat? Vous le savez?
À peu près en France, il y a 1000 pratiquants de pench axilat.
Oui.
Et sachant que sur l'Isle-Adam, on est quasiment une centaine déjà, je vous laisse imaginer. Donc il y a encore un gros travail à faire au niveau, même au niveau national, pour faire connaître cet art martial-là qui est encore trop méconnu à notre sens. Mais l'ESDA est force de proposition justement pour valoriser cet art qui nous plaît, qui nous rassemble, qui nous fédère et qui nous fait progresser aussi.
Alors on en parlera peut-être aussi avec Dev, mais est-ce que c'est une discipline qui va se pratiquer au JO? Non, Dev, vous
non.
me dites non.
Non,
c'est pas encore.
C'est pas encore prévu,
c'est
peut-être un jour.
C'est pas l'ordre du jour.
Peut-être un jour.
Peut-être. Très bien. Merci Jérémy pour
Merci,
toutes
Jacqueline.
Ces précisions et puis toute la bienveillance que vous inspirez dans ce domaine. Qui a priori pourrait paraître agressif, mais on va en parler plus avec Dev dans quelques instants. Alors, si nos auditrices et auditeurs veulent rejoindre l'école de Silla Défense Adamoise, que doivent-ils faire?
Ils peuvent venir nous rencontrer pour faire un cours d'essai le lundi soir, mercredi soir ou vendredi soir au gymnase Amélie Mauresmo à l'Isle-Adam.
D'accord.
Ils peuvent également nous contacter sur notre site internet penchaxsilladefense95.fr où ils tapent École de Silla de Défense Adamoise sur Google, tout simplement. Prendre contact avec nous, soit par mail ou par téléphone également. Il y a tous les coordonnées, s'ils ont des questions. Ils seront les bienvenus. On peut venir essayer à tout moment de l'année.
C'est ça, s'inscrire en janvier, c'est pas trop tard.
Il n'y a pas de souci. Après, la personne paye sa cotisation pro rata, bien entendu.
Oui, bien
tout
sûr.
Simplement. Mais il n'y a pas de problème pour venir essayer. Et même, je pense que Dave en parlera après, mais on va reprendre des stages également. Courant de l'année, pour proposer des sortes de portes ouvertes, entre guillemets, pour faire découvrir, essayer aux personnes qui sont curieuses et qui le souhaitent le penchak.
Alors, vous m'avez tendu une perche. La cotisation, elle est de quel montant?
La cotisation, elle est à 220 euros.
D'accord, pour l'année.
Pour l'année. Après, il y a la licence FFK pour l'assurance qui est de 37 euros.
C'est obligatoire, bien sûr.
Et après, il y a également il y a la tenue à payer également, qui est un pantalon plus un t-shirt et des équipements, un bâton et un couteau de l'ordre de 85 euros.
D'accord.
Voilà, donc,
D'accord. Très bien.
C'est ça.
Merci beaucoup. Donc, des coordonnées qui se retrouveront bien évidemment sur notre podcast. Merci Jérémy.
Merci
pour,
beaucoup, Jacqueline.
Pour votre intervention. On va faire, c'est l'économie en direct hein, sur EDFM Radio. Jusqu'à 11h, nous parlons d'un art martial, le Penchaksila. Mais on fait une pause avant de continuer sur ce thème. À tout de suite.
J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici?
Mirza par Nino Ferrer, un titre classique mais dont on ne se lasse pas. Merci d'être resté avec nous. Le Penchaksila, c'est le fil rouge de notre mission avec à mes côtés Jérémy Klinko, directeur commercial et administratif chez Goldaya, responsable relations publiques et webmaster de l'école de défense adamoise, de Silla Défense Adamoise. Et instructeur ceinture noire premier dan Penchaksila dans l'équipe enseignante adulte-enfant. Dave Mambungu, cadre au ministère de l'Intérieur, professeur de Penchaksila ceinture noire troisième dan, instructeur fédéral, responsable associatif dans les domaines sociétaux, sportifs et humanitaires. Et Cécile Cassier, notre femme qui pratique le Penchaksila, manager HSE et membre de l'école de Silat, défense adamoise. Focus sur vous, Dave Mambungu. Donc, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs.
Merci de me donner l'occasion de me présenter. Merci de nous donner l'occasion à l'école de Silla Défense Adamoise également de nous faire connaître. Mais écoutez, déjà, je suis, comme vous l'avez dit, cadre au ministère de l'Intérieur en charge des relations institutionnelles entre les entreprises et le ministère. Mais je suis plutôt là pour parler du domaine associatif.
Oui, oui.
Et je suis aussi professeur de Penchaksila, de ceinture noire 3e dan, instructeur fédéral, et président de l'association École de Silla Défense Adamoise, qui est donc une association de l'art martial de Penchaksila basée sur l'île Adam, qui aujourd'hui, on peut dire, se compose d'une centaine d'adhérents. Il est le premier club d'Île-de-France en Penchaksila. En tout cas concernant les clubs qui sont affiliés à la Fédération Française de Karaté, et il est également aussi le deuxième plus gros club de France en termes d'adhérents. Donc c'est une fierté pour les Adamois, les Adamoises, les Valdasviennes et les Valdoisiens d'avoir un club de Penchaksila qui soit actif.
Oui, reconnu de cette façon.
Reconnu de cette façon, absolument. Donc c'est vraiment une vraie fierté. Et ce qui peut illustrer mes propos, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, dans vos propos préliminaires, j'ai été reconnu par le ministère des Sports qui m'a attribué en 2019 la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Ça vient, ce qui vient couronner toutes nos actions qui ont été entreprises depuis la création de l'association. Et Jérémy Clinco l'a très bien cité auparavant, c'est-à-dire que nous, on s'est fait connaître sur le département et sur la ville par l'organisation de stages thématiques à l'endroit du public féminin pour essayer de répondre aux maux que connaissent nos femmes vis-à-vis des violences sur la voie publique ou aussi des violences conjugales. En tout cas, voilà, ça a été notre manière de nous faire connaître et puis surtout de répondre à une problématique dite publique.
Et voilà. J'ai d'ailleurs compris que nous en avons parlé avant l'émission. Vous avez beaucoup de femmes qui sont dans votre école.
Oui, je connais pas les effectifs de tous les clubs, mais ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que ça fait bien 5-6 ans que à l'école de CA Défense Adamoise, on a minimum 20 femmes par an. Ouais, on a toujours 20 femmes par an. Il est même arrivé qu'il y ait plus de femmes en cours que d'hommes.
Très bien.
Donc c'est dire.
Et vous-même, donc Dave, depuis quand pratiquez-vous cet art martial ?
Alors, je pratique les arts martiaux, en général, depuis l'âge de 8 ans. Donc, j'ai commencé par le karaté, j'ai fait 14 ans de karaté de Shotokan, et ensuite, je suis passé au penchakshilat depuis 2009.
Oui.
Donc, c'est depuis 2009 que je pratique le penchakshilat.
Et sans regret aucun par rapport à ce passage du karaté au penchakshilat.
Non, aucun regret. Ma passion des arts martiaux est restée intacte. Simplement, à la sortie de mon expérience du karaté, je cherchais une discipline qui puisse m'apporter un peu plus et qui puisse m'apporter différemment. Vous le savez peut-être pas, mais l'une des forces du karaté de Shotokan, c'est de pouvoir maintenir son adversaire à distance.
Oui.
Et l'apport du penchakshilat, en tout cas sur cet aspect technique, c'est de pouvoir apporter des réponses dans un combat rapproché. Et c'est là que j'ai trouvé un intérêt à pratiquer le penchakshilat et justement l'ajouter en complément à ce que j'ai pu apprendre avant. Donc non, aucun regret et bien heureux de pratiquer le penchakshilat et puis d'être à la tête d'un club qui fonctionne bien avec des bénévoles de grande qualité.
Alors, quelques mots sur l'origine de cette discipline, Dave.
Oui, l'origine du penchakshilat. Alors, il est dit, selon une légende, que le penchakshilat a connu sa création par l'observation d'un combat entre deux animaux. Et cette observation a été effectuée par une femme.
Voilà, bravo.
Donc, comme quoi, nous sommes vraiment dans la lignée de la tradition,
oui.
On va dire ça comme ça. C'est un art martial qui a connu, je dirais, son âge d'or après l'invasion indo-japonaise en Indonésie qui a duré pendant 4 siècles. Et si vous voulez, la particularité du penchakshilat, c'était que c'était une discipline qui était pratiquée je dirais en terrain de jungle,
oui.
Et qui se devait d'être discret et particulièrement efficace pour faire face aux colons. Donc on va dire que le penchakshilat, c'est vraiment à cette période qu'elle a connu son âge d'or.
Son âge d'or, oui.
Son apogée, on va dire ça comme ça. C'est un art martial qui s'est développé notamment en Indonésie et en Malaisie, principalement. On peut même considérer que c'est un art martial d'Asie du Sud-Est, si je devais faire un résumé géographique.
Oui, d'accord. Voilà. Alors moi, j'ai lu en préparant le dossier que, en fait, c'est ce que vous venez de nous dire, hein, les autorités hollandaises du 19e siècle interdisaient de pratiquer les arts martiaux. Et c'est pourquoi la population a adapté cette discipline sous forme de danse.
Exactement.
Avec un style influencé par les animaux.
Exactement.
Et aujourd'hui, donc, il y a toujours des poses, des positions qui font penser aux animaux.
Oui, mais vous faites bien de le rappeler parce que le penchakshilat est vraiment un art martial. Et tout art martial, d'ailleurs, pas que le penchakshilat, est calqué sur, des, sur l'observation des animaux.
D'accord.
L'objectif, en observant les animaux, c'est de provoquer le réflexe reptilien chez les adhérents. Voilà. Et effectivement, je peux vous confirmer que dans nos positions et les nombreuses techniques que nous pratiquons en cours, on peut observer encore les influences provenant des positions animales. Et encore plus chez les enfants. Le cours enfant que nous avons mis en place, et nous sommes le premier club valdoisien à l'avoir fait, je tiens à le dire, que nous avons mis en place il y a 2 ans, et dont l'objectif est justement de développer le réflexe reptilien des enfants et de se concentrer uniquement sur les positions animales.
D'accord.
Voilà, l'objectif, c'est pas d'apprendre aux enfants à taper sur des parties génitales ou gorge ou autre. Non, c'est développement du réflexe reptilien, travail de motricité sur les techniques calquées de l'art martial du Penchaksilat. Voilà.
Merci Dave pour cette précision. Alors nous avons bien compris que vous étiez un acteur associatif engagé, un représentant de cet art martial du Penchaksila. Vous avez une vraie
vocation.
Pour cette pour le domaine associatif.
Oui, c'est vrai que je suis engagé par ailleurs sur un certain nombre d'associations, je dirais une dizaine. Pour ne rien vous cacher, moi, je comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le sport à l'âge de 8 ans. Et dans mon parcours de vie, je me suis toujours illustré par l'intermédiaire de l'associatif.
Oui.
Ça ne m'a jamais quitté. Dans ma vie, dans mon autre vie, j'ai été aussi entraîneur de handball dans les Yvelines, et j'ai été très jeune entraîneur. J'ai été entraîneur à l'âge de 19 ans, et à l'âge de 19 ans, j'étais déjà entraîneur d'une équipe de seniors féminines et masculins. Donc on va dire que c'est vraiment quelque chose qui a toujours été en moi, et qui m'a jamais quitté, et qui m'a suivi jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours eu cette volonté de m'investir pour les uns et pour les autres.
C'est ça, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous avez envie de le faire partager.
Exactement.
Forcément.
Exactement.
Est-ce que le Penchaksila a changé le paysage des arts martiaux? Est-ce que ça...
Ah oui, oui,
puisque
oui.
C'est plus récent, hein, si j'ai bien compris.
Oui, alors, c'est plus récent, même si, quand même, il faut quand même le dire, le Penchaksila existe en France depuis au moins 50 ans. La problématique qu'il y a, c'est que notre art martial n'a jamais su s'organiser au sein d'une fédération unique. Par exemple, une fédération française de Penchaksila, ça n'a jamais existé. Ça a toujours été parcellaire, et c'est peut-être, c'est même pas peut-être, c'est ce qui manque à nos disciplines. Nous, à l'école de Sila Défense à Damoise, on a fait le choix de nous mettre derrière la fédération française de karaté, qui est l'une des plus grosses fédérations françaises, et qui a la structure administrative et financière qui puisse permettre à l'art martial du Penchaksila de se développer. Nous, on a fait ce choix-là. Parce que l'art martial humain n'était pas organisé en tant que tel. Et effectivement, pour répondre à votre question, oui, c'est un art martial qui vient un peu déranger les habitudes, et puis, et puis qui vient ajouter aussi une autre forme de corps, une autre forme technique par rapport aux arts martiaux traditionnels. Judo, karaté, aïkido, viet vo dao, je ne vais pas dire Krav Maga, parce que Krav Maga n'est pas un art martial, mais un système de self-défense. Mais voilà, c'est vrai.
On en parlera tout à l'heure avec Cécile.
Absolument. Oui. Mais c'est vrai que ça vient modifier un peu le paysage. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes les ambassadeurs du Penchaksila pour dire que, certes, ça vient modifier le paysage, mais c'est tout aussi efficace que les autres, et il y a tout intérêt aussi à le pratiquer.
Très bien. Pour en revenir à ce monde associatif qui vous tient à cœur, vous dites vous-même que ça a permis au moment de la crise sanitaire de maintenir un lien social entre les uns et les autres.
Oui, oui, oui. C'est bien de profiter de ces occasions comme ce matin pour rappeler que l'associatif, le tissu associatif, le domaine associatif, il est très important. Il faut qu'il soit soutenu par les autorités, parce que pendant la crise sanitaire, pour toutes celles et ceux qui étaient et qui pouvaient être isolés, chacun de leur côté, eh ben, l'associatif, c'était l'un des moyens de pouvoir faire perdurer le lien social, de faire en sorte que chacun puisse être en contact avec les uns et les autres, savoir comment... En tout cas, essayer de changer la vision des choses, parce que être à la maison de manière permanente sans pouvoir pratiquer quoi que ce soit, ça pouvait être difficile.
C'est compliqué,
ça a été difficile pour tous les Français. Et le domaine associatif, justement, a permis ça, a permis aux Français, dans leur généralité, de pouvoir s'évader, de pouvoir extérioriser les...
communiquer les uns entre les
autres.
Absolument.
C'était très, très important. Et même s'il y a eu du soutien, ça a été observé, mais il faudrait le maintenir et il faudrait le pérenniser, vraiment.
Très bien. Alors, nous avons vu avec Jérémy que votre école est à la recherche de sponsors, hein, de peut-être même de mécènes. Vous-même, vous souhaitez en dire un mot, Dave ?
Oui. Les associations, de manière générale, lorsqu'elles se développent et quand elles sont importantes, disposent de sponsors, à défaut de mécènes, mais au moins de sponsors. Ces sponsors auront pour objectif de démontrer le sérieux de notre association et puis de confirmer aussi son rayonnement au niveau local et départemental. Nous sommes aujourd'hui une association reconnue, comme je vous l'ai dit. Nous sommes le plus gros club du Val d'Oise, le premier club d'Île-de-France et le deuxième plus gros club de France. Et donc, les acteurs économiques du département auraient tout intérêt à soutenir une association comme la nôtre, qui non seulement permet l'enseignement de notre art martial, mais aussi en parallèle organise régulièrement des stages par thématique qui servent aux citoyens dans leur généralité.
Bien sûr.
Donc, voilà. On sert comme on peut l'intérêt public, et donc il serait bien de venir nous soutenir.
Voilà. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup de femmes qui viennent, et que parce que dans la recherche de cette discipline, il y a sans doute l'intérêt de bouger, enfin de faire quelque chose de son corps, mais on parle de self-défense également.
Alors, la self-défense, c'est la traduction de self-défense, c'est l'art de se défendre. Donc, toute discipline peut s'approprier le terme self-défense. Par contre, nous, ce qu'on a dû faire, effectivement, c'est pour se faire connaître, c'est dire que le Panjaxilat avait son mot à dire dans l'art de se défendre. Et puisque vous me parliez des femmes, ce qui fait plaisir aux femmes de nos clubs, et puis à celles qui s'intéressent, y compris les stagiaires, c'est que le Panjaxilat a une particularité. C'est se sortir d'une situation le plus rapidement possible et le plus efficacement possible.
Oui.
C'est ce que les femmes attendent.
Absolument.
Et on a essayé d'y répondre, et visiblement,
on a
quelques satisfactions.
Très bien, très bien. Mais écoutez, j'espère que beaucoup d'auditrices nous écoutent et auront envie de rejoindre votre école. Vous avez une actualité à nous annoncer. Vous en avez parlé un petit peu déjà, mais alors on reparle des femmes sur les stages thématiques, Dave.
Oui, on va relancer dès l'année 2023 des stages thématiques pour les femmes et pour les hommes, parce que on a vraiment priorisé sur les 5 dernières années pour les femmes, et puis les hommes se sont plaints.
Oui.
Et on demandait aussi qu'ils puissent avoir des stages pour eux.
On vous aime à la radio.
Voilà, c'est ça. Donc on va pratiquer l'équité pour les femmes et pour les hommes. Et donc on va faire des stages thématiques, comme je vous l'ai dit, pour les femmes. On va le planifier très bientôt. Ça sera courant du premier trimestre. Et puis sur le second trimestre, nous mettrons en place un stage tout public où les hommes pourront participer. Voilà, ça sera toute cette communication sera faite sur notre site internet et puis sur nos réseaux sociaux.
Parfait.
Voilà.
Alors, nous avons des auditeurs qui prennent toujours l'émission en cours de route. Donc, rappelez-nous, vous également, les coordonnées de l'école pour tous ceux qui auraient envie de s'inscrire, Dave.
Alors, nous sommes l'association, le club École de Silat Défense Adamoise. Nous sommes basés sur la commune de l'Isle-Adam, où l'adresse est 1 allée du docteur Jean Cailleux, 95 290 Lille-Adam. Pour nous joindre, c'est le 06 74 74 18 84. Et voilà, pour le site internet, c'est https et puis 2.://www.penchaxilatdefense95.fr.
Voilà. Ouais, donc on ne peut pas louper l'école si on a envie de s'inscrire.
Absolument.
C'est clair. Merci beaucoup Dave Mabungu pour votre engagement et puis nous avoir un peu plus familiarisé avec cet art dont on comprend aussi que, comme l'a dit Jérémy, c'est une source d'énergie intérieure.
Merci Jacqueline. Merci beaucoup.
Merci. Nouvelle pause avant de continuer avec le témoignage de Cécile Cassier dans quelques instants. À tout de suite.
These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Snap par Rosa Lynn. Rendre le Penchak Sila accessible et inspirant, c'est le thème de l'économie en direct sur IDFM Radio, où je suis toujours en compagnie donc de Jérémy Klinko, directeur commercial et administratif chez Goldaya, responsable relations publiques et webmaster de l'école de Sila Défense Adamoise, instructeur ceinture noire premier dame Penchak Sila dans l'équipe enseignante adulte-enfant, Dave Mabungu, cadre au ministère de l'Intérieur, professeur de Penchak Sila, ceinture noire troisième dan, instructeur fédéral et responsable associatif dans les domaines sociétaux, sportifs et humanitaires, et Cécile Cassier, manager HSE et membre de l'école de Sila Défense Adamoise. Coup de projecteur sur vous, Cécile.
Avec plaisir.
Donc Cécile, qui êtes-vous?
Alors, comme vous l'avez mentionné, je suis responsable en santé et sécurité au travail pour un groupe international et je suis aussi, comme vous l'avez également mentionné, pratiquante de Penchak à l'école de l'Isle-Adam.
Alors, je n'ai donc
avec vous, on n'a pas eu besoin de demander à Jérémy et Dave si les femmes pouvaient pratiquer le Penchakshila. Vous-même, qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer cette discipline?
Alors, je dirais que je cherchais un art martial. Je cherchais un art martial qui, à la fois, véhicule des valeurs qui étaient parlantes pour moi, à savoir le respect de l'autre. Je ne voulais pas tomber non plus dans une discipline qui est violente, ou du moins qui n'est que comme idée fixe d'avoir le combat. Et je voulais quand même quelque chose qui me permette de me défendre dans la rue, parce que, comme beaucoup de femmes, j'avais été dans des situations d'agression sur la voie publique. Donc, je voulais cette alliance des deux. J'ai recherché sur Google, sachant que Jérémy a fait un très bon travail de référencement. Donc, oui. J'ai trouvé l'école de l'Isle-Adam. Et je suis allée à un des stages, un stage qui était dédié qu'aux femmes, celui-ci. J'ai fait le stage et je pense que le lundi d'après, j'ai signé pour...
Ah oui, vous avez été un coup de cœur.
Oui, absolument.
Oui, très bien. Vous nous disiez que vous aviez fait d'autres... Vous aviez essayé d'autres disciplines en art... Enfin, alors, je fais attention à ce que je dis parce que le Krav Maga n'est pas un art martial. Mais en tout cas, vous cherchiez à vous défendre.
Absolument. Alors, j'avais jamais fait d'art martial avant de pratiquer le Penchak. Mais effectivement, quand j'ai fait cette recherche de trouver un moyen de me défendre ou d'apprendre des pratiques de défense, j'ai d'abord testé le Krav Maga. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai eu une vision totale de cette discipline, mais moi, là où je l'ai essayé, ça ne m'a pas plu du tout.
Vous n'avez pas accroché.
Non. Et dans les différences que je vois, quand j'ai essayé le Krav Maga, c'était quelque chose où on mettait beaucoup l'accent sur la force physique.
Oui.
Ce qui, moi, en tant que femme et en tant que petit gabarit, ne m'aidait pas du tout. Alors que le Penchakshila, comme l'a mentionné tout à l'heure Dave, c'est un peu ce qu'on appelle le combat éclair. Donc, c'est-à-dire qu'en trois coups, normalement, on doit être en mesure de neutraliser l'adversaire. Nous, en tant que femmes, l'idée, c'est de pouvoir porter des coups suffisamment importants ou efficaces qui puissent nous permettre d'avoir assez de temps pour nous sauver ou partir.
Ou même de faire sauver l'adversaire si vous avez des coups comme ça assez... pas violents, mais en tout cas déterminants.
Absolument. Mais j'avais un ami professeur de judo qui, une fois, faisait un cours à une audience majoritairement masculine et qu'il était en train de monter une prise. Et il leur avait dit, mais vous savez, si un petit bout de femme donne un coup de pied dans les parties génitales, vous aurez beau avoir beaucoup travaillé la prise, vous serez de toute façon hors d'état de nuire.
Oui,
c'est assez vrai. Et c'est ce que j'ai trouvé avec le Penchak. C'est-à-dire que je me sens confiante dans les coups que je porte, alors que le Krav Maga, j'avais plutôt l'impression de subir ce qui se passait.
Oui, je comprends. Alors, quelques chiffres. Donc, on a compris qu'à l'Isle-Adam, vous êtes une vingtaine de femmes. Au niveau national, vous avez une idée de la représentation des femmes?
Alors, je ne sais pas. Peut-être que Dave a ce chiffre-là. Moi, ce que je peux vous dire en tant que vécu au quotidien, c'est que, comme l'a mentionné Dave, ça m'est arrivé d'arriver dans des cours où, hormis les profs, il n'y avait que des femmes qui étaient là au niveau des cours. Majoritairement, quand il faisait froid et qu'il neigeait très fort, c'était les femmes qui prenaient la voiture pour aller s'entraîner au Penchak.
D'où cette volonté d'équité homme-femme. Mais j'aime bien dans ce sens. Donc vous le pratiquez depuis 2019?
Oui, c'est assez récent. Je pratique à peu près deux fois par semaine. Là, j'ai dû être arrêtée pour des petits problèmes de santé, mais je vais reprendre dans pas longtemps. Mais oui, à peu près deux cours par semaine. Je pense que deux cours par semaine, c'est un peu le minimum si on veut progresser. Après, chacun a son rapport à la discipline. Mais on travaille à mettre en place des automatismes de défense. Si on le fait moins de deux fois par semaine, on voit
qu'on est... on les a pas. Oui, je comprends. C'est un cours qui dure une heure?
Non, ça dure 2h15, entre 2h15, 2h30. Donc c'est assez intense. Mais comme vous le mentionnez tout à l'heure, que vous n'oseriez peut-être pas passer la porte du dojo, le Penchak, déjà en tant que personne, ce que ça m'a apporté, c'est déjà un impact physique qui pour moi n'est pas le plus important, mais qui est important à mentionner. L'impact physique et le dépassement de soi. C'est-à-dire que c'est assez progressif comme apprentissage et on se retrouve à la fin de la première année à faire des choses qu'on ne se pensait absolument pas capable de faire.
Très bien, oui, écoutez, ça donne envie d'essayer en tout cas. Et donc, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors, en tant que femme, je dirais que ça m'a apporté un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on nous fait grandir et on évolue avec l'idée implicite qu'à partir du moment où on sort de chez soi, et bien souvent même chez soi, On est vulnérable et on est des proies potentielles parce qu'on considère que voilà, on est plus sujette aux agressions. On a tout entendu, fais attention, fais-toi accompagner le soir quand tu rentres.
Absolument, oui, vous avez raison.
Et en fait, le PENSHAC, ça nous offre la voie du possible. C'est-à-dire qu'on implique le fait qu'une femme peut être un adversaire aussi redoutable qu'un homme. Et c'est vrai, en fait, et c'est vrai. Et comme on disait, c'est beaucoup de travail, le PENSHAC, pour apprendre des automatismes, des prises, etc. Et quand on est dans cette idée-là et dans ce travail-là, c'est-à-dire que si on travaille avec l'idée de pouvoir ressortir cet automatisme-là, si un jour je suis attaquée, c'est bien l'idée qu'on sait qu'on va se défendre.
Oui, oui, oui.
Et donc en fait,
et surtout de ne pas avoir peur finalement de selon la situation dans laquelle vous allez vous trouver.
Absolument. Alors, on devient clairement pas des Wonder Woman.
Oui, oui.
On sait très bien qu'en fonction de si on est fatigué, par bien surprise, sûr. Etc. Mais c'est vrai qu'on est plus tranquille sur le fait qu'effectivement on pourra avoir des recours. Et je pense qu'il y a une demande générale parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux. On voit souvent maintenant des courtes vidéos où on partage des prises de défense ou alors des petites astuces sur se servir de ses clés comme d'un moyen de défense. Donc je pense que les femmes maintenant sont un peu dans cette demande-là de devenir un karatéka, d'avoir de vrais moyens de défense, quoi.
Donc dans l'école, parmi les enfants, il y a des petites filles.
Exactement, pareil, oui, pareil chez les enfants. Il y a une mixité entre garçons et filles, 50-50 quasiment.
Oui, autant l'apprendre le plus tôt possible.
Exactement.
Donc vous, Cécile Cassier, vous êtes vraiment pour un développement et une démocratisation du Penchaxila au sein des femmes.
Bah, je pense que ça peut faire beaucoup de bien, déjà d'un point de vue psychologique, mental, parce que cet aspect de se sentir vulnérable, ça impacte tous les aspects de sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Ça. Et le PENSHAC a un vrai atout pour ça. Et de ce que j'ai pu voir, il y a certaines femmes qui avaient commencé la première année de PENSHAC, on voyait bien qu'elles n'osaient pas porter des coups.
Le fait de passer
la barrière de l'impact physique, du contact physique, et elles ont totalement évolué. On a pu le voir, elles ne s'en rendaient pas compte, mais nous, on pouvait le voir évoluer dans leur façon de se tenir, de marcher. Et c'est un peu ce que disait tout à l'heure Jérémy, c'est-à-dire que moi, sur un quai de gare, bon, je faisais déjà un peu attention, mais avec le PENSHAC, j'ai pris des automatismes. C'est aussi quelque chose qu'on nous apprend pendant les cours.
Oui.
Je me mets toujours dos à un mur, comme ça j'ai un champ de vision qui me permet de voir tout ce qui arrive. Je fais attention, j'ai jamais les deux écouteurs, je suis jamais au téléphone sans faire attention à mon... C'est-à-dire qu'avant, une femme va justement se mettre sur son téléphone pour essayer de se rassurer d'avoir quelqu'un au bout du fil, ce qui est une erreur parce que du coup on ne porte pas attention à son environnement. Le fait du PENSHAC, c'est se dire je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un, j'ai besoin de faire attention à ce qui arrive pour pouvoir mettre en place ce qui se passe.
Être toujours en veille.
Oui, absolument.
Un peu comme un animal donc qui traverserait un endroit dangereux.
C'est exactement ça. Et c'est aussi le fait de voir qu'un homme va vous regarder de manière peut-être un peu plus appuyée. Donc, et c'est ce genre de choses qu'on fait attention. Après, on ne vit pas dans une paranoïa permanente.
Non, on est bien d'accord. Mais voilà, avoir des fondamentaux qui font qu'on aborde des situations d'une façon plus sereine.
Absolument.
Oui. Vous parliez au quotidien, vous parliez d'état d'esprit. Expliquez-nous.
Alors, c'est déjà un peu aussi ce que Jérémy mentionnait, c'est qu'on va pas se mentir, on a tous des journées très chargées, le cours est à 20h, il y a des soirs en plein hiver, on se dit, bon, là, j'ai pas envie de faire 2 heures de combat, je sens que j'ai pas l'énergie pour ça. Et donc, on y va, et c'est très marrant parce qu'on voit un peu comment ça se révèle. Il y a des fois où on est fatigué, on arrive là-bas, on dit qu'on ne fera rien, et au final, on passe 2 heures super à se dépasser. Et c'est justement cette discipline qui fait qu'en travaillant régulièrement, on le voit au quotidien, qu'on s'améliore aussi physiquement. Moi, typiquement, j'ai des problèmes de dos. Je suis interdite de course à pied. Et le PENSHAC, en faisant énormément travailler les muscles posturaux, etc., m'a permis de réussir à gérer ce mal de dos. Donc, c'est un changement. Ça crée un changement au sein de la personne, que ce soit homme ou femme, mais encore plus pour la femme dans la société dans laquelle on vit, qu'on voit physiquement et mentalement. Et c'est très progressif.
Subtil, mais ça se fait. En fait, vous êtes en train de nous parler d'hygiène de vie.
Oui.
Carrément. Est-ce que il faut une hygiène alimentaire qui soit associée?
Alors, je pense que je suis un bon exemple pour parler de ça parce qu'effectivement, j'ai tendance à pas manger suffisamment et donc avec le PENSHAC, on a besoin de manger correctement. Et effectivement, c'est une hygiène de vie parce que vous ne pourrez pas faire un gros repas avant d'aller au PENSHAC. C'est une très, très mauvaise idée parce que c'est un effort intense. Mais ça implique d'avoir justement un bon apport. Mais du coup, on est beaucoup plus à l'écoute de son corps. On va savoir que quand on a un coup de fatigue, c'est-à-dire que pour d'après, on mangera un petit peu mieux dans le reste de la journée, etc. Donc oui, c'est une discipline au quotidien. Ouais.
Vous avez, Dave et Jérémy, vous avez une formidable ambassadrice là, pour l'école de Silat.
On ne pouvait pas avoir mieux.
Ah oui, bravo. Donc, vous faites partie aussi de l'équipe sportive, Cécile ?
Alors, je ne suis pas pour le moment dans l'équipe à proprement parler, dans le bureau. En revanche, je suis assez investie. Je considère que c'est un juste retour parce que Penchak m'a beaucoup apporté. Et Dave et Jérémy et l'ensemble de l'équipe, c'est par rapport à cet environnement sécurisant dont je parlais, il y a quelque chose de bienveillant. Donc, il y a un lien qui se crée entre le professeur et l'adhérent. Et il y a notamment, ils vont nous montrer des pratiques aussi de respiration. Alors dit comme ça, on a un peu l'impression qu'on est dans une autre sphère, mais en fait non, quand on fait un combat d'une minute, c'est énorme. On est épuisé. On a beau se dire au début je respire, on est à bout de souffle au bout de quelques secondes. Ces exercices de respiration, on le voit très rapidement. Et c'est ça le penchak, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une application pratique, des prises, etc. Si on ne s'interroge pas un petit peu sur le traditionnel avant, on va passer à côté de toute une partie de la pratique. Ouais. Donc c'est vraiment très très complémentaire et ça a un impact sur le quotidien.
Il faudrait que vous rencontriez Christophe Cusin qui est le manager des Jokers à Pontoise, parce que je l'ai reçu et le hockey sur glace aussi, c'est en une minute, enfin il faut donner en une minute, donc il y a cet aspect comme ça de respiration et d'être un peu en apnée, c'est le cas.
Alors justement, il faut surtout pas être en apnée.
Ah d'accord.
Mais ce sera avec un plaisir. On est toujours intéressé de se rencontrer d'autres disciplines et comment ça joue. Mais non, justement, c'est de garder une respiration constante. Et c'est le fait de rester en éveil, de pouvoir préparer le prochain coup qui arrive sans se focaliser sur le coup qui est arrivé. Mmh. Et ça, c'est aussi une des choses, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de me faire agresser en voiture et je me suis pris un coup de poing direct du conducteur qui était là et j'ai été complètement à garde et c'était pas par la force du coup, c'était par l'absurdité du fait que ça puisse arriver comme ça. Et le penchak,
vous avez été sidéré.
Absolument. Ouais. Voilà, c'était vraiment un moment de sidération. Et en fait, le penchak, alors on passe pas notre séance à prendre des coups, mais on apprend à les porter en maîtrisant la force. Et le fait de passer ce cap-là, ça aide énormément. Parce que c'est-à-dire que, ok, j'ai pris un coup, c'est pas dramatique. Je peux encore continuer d'agir. Et c'est là où la respiration joue un rôle capital.
Très bien, très bien. Ah ouais, écoutez, vous en parlez formidablement bien. Alors, au niveau de la pratique du penchak sila en général, l'association, elle a son cœur de métier, à savoir cette pratique. Comment vous voudriez aussi que ça gagne en visibilité?
Je pense que pour beaucoup de femmes, je pense que moi, toutes les amies autour de moi ont toutes été confrontées à un...
Vous en avez convaincu autour de vous?
Alors, elles ont souvent du mal à passer la porte du dojo. En revanche, elles ont toutes été dans une situation de harcèlement ou d'agression. J'ai pas une personne féminine dans mon entourage qui n'a pas été confrontée à ce problème-là. Et je sais le bienfait que ça pourrait leur faire. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y a encore des freins sur le fait de passer la porte du dojo, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait encore une fois de manière très progressive. Et toutes ces femmes qui ont des postes assez importants, je sens bien qu'elles ont le mental pour le faire. C'est juste qu'il y a encore ce frein psychologique du... Mais c'est en lien avec tout ce qu'on dit sur la société, sur la femme qui ne va pas se défendre et qui n'est pas à sa place. Et au penchak, dans le club, c'est ce que disait aussi Jérémy, donc on achète un... On a une tenue. L'idée, c'est des vêtements assez amples, parce qu'à partir du moment où on pose un pied sur le tatami, on n'est plus un homme ou une femme.
Oui,
c'est totalement, c'est pour gommer cette partie-là, on devient androgyne. Et dans les cours, on se bat aussi bien avec un homme qu'avec une femme. Et très souvent, quand on travaille sur des prises, parce que j'aime bien remettre en question des fois les enseignements, j'ai dit, est-ce que cette prise-là, je pourrais la mettre en place avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi? Et donc, je vais généralement mettre à contribution les instructeurs et tester la prise. Donc, c'est aussi très, très intéressant de s'intéresser avec des hommes, parce que l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de se défendre si un jour, malheureusement, on est confronté à ce cas de figure.
Je crois que vous pourriez vraiment faire des conférences pour convaincre les femmes de rejoindre cette discipline, parce que vraiment, oui, c'est très attractif à vous écouter.
Ce serait avec plaisir, vraiment.
Bravo, merci beaucoup Cécile pour votre détermination et votre enthousiasme. une question que je ne vous aurais pas posée et dont vous voudriez parler à propos du Penchaksila?
Bah, je ne sais pas, je dirais... Moi, une question qu'on m'a souvent posée, c'est très bien, tu fais tous ces entraînements-là, mais est-ce que tu penses que tu serais en mesure de te défendre dans la rue si jamais ça se présentait?
Oui.
On n'est jamais sûr, et je pense que même les personnes les mieux formées, les plus chevronnées, ne sont pas sûres que si un jour, dans un état de stress, ils seront en mesure de sortir une prise. Ce que je sais maintenant, c'est que je chercherai à mettre quelque chose en application. Oui. Quoi que ce soit. Que ce soit une prise que j'ai enseignée ou pas, mais je chercherai à me défendre. Et cet état d'esprit-là, il est fondamental. Aussi bien pour un homme que pour une femme, je pense.
On parlait avec Jérémy tout à l'heure de l'apport spirituel, on va dire au niveau de professionnel. Est-ce que vous-même, vous l'avez ressenti aussi? Est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre pratique professionnelle?
Oui, énormément. Énormément parce que le Penchak, c'est énormément de maîtrise de soi. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être à la fois un corps très détendu, un peu comme les animaux qui sont très fluides dans leurs mouvements, mais au moment de parer à l'attaque, il faut pouvoir mettre toute la force dans le mouvement. Et c'est très, très difficile d'avoir ce switch-là entre le moment très détendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, enfin, qui est utile dans la vie professionnelle aussi.
Oui, oui, parce qu'il peut y avoir des moments compliqués dans la vie professionnelle.
Absolument, oui. Absolument. Mais même dans la vie professionnelle, et justement, sans parler d'agression physique, quelqu'un qui vous insulte, on apprend en Penchak que le meilleur combat, c'est le combat qu'on évite. C'est très difficile de subir des insultes sans réagir. On ne réagit pas. Tant qu'il n'y a pas de violation de notre espace physique, on ne réagit pas. Et c'est une chose très intéressante, très importante.
Et donc, c'est presque une discipline de, comment on dit, de non-violence.
Absolument.
Malgré le fait que c'est une discipline, on l'a dit avant l'émission, on peut tuer avec le Penchaksila.
C'est ce qui peut sembler une contradiction, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter le combat. En revanche, si on ressent le danger, il ne faut plus hésiter une seule seconde.
C'est ça. Très bien. Merci infiniment à tous les trois pour cette belle démonstration. L'émission n'est pas terminée, mais voilà, on en approche. On refait un tour de table pour si vous avez des choses à nous préciser, Jérémy Clinco.
Pour conclure cette émission, du coup, merci beaucoup Jacqueline pour l'invitation de nouveau.
C'est très intéressant.
C'est une très belle tribune pour l'association, pour le Penchak. Donc, on est vraiment venu avec plaisir.
Oui.
Et je suis ravi d'avoir partagé cette émission avec Cécile. Également, merci beaucoup pour ton témoignage. Également avec Dev, notre président de l'association, avec qui je prends beaucoup de plaisir à développer l'école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au-delà de l'aspect martial, il y a vraiment un projet derrière, il y a des humains aussi justement, avec cette envie, quand il parlait de tissu associatif, de créer du lien justement, et c'est plus qu'une association en fait, c'est pas juste faire un art martial en tant que tel, c'est il y a un apport supplémentaire même au niveau sociétal on va dire, qui est important et que je trouve qui est important de valoriser. Et également pour ceux et celles qui souhaitent venir essayer le Penchaksila, qu'ils n'hésitent pas à venir à un cours d'essai. On les accueillera avec grand plaisir, avec bienveillance, le lundi soir, mercredi soir, vendredi soir.
À pour partir les adultes, de quelle heure?
À partir de 20h15 à Lille-Adam, au gymnase Amélie Mauresmo. Et puis pour les enfants, à partir de 9h le samedi matin, pareil, au même endroit. Les gens peuvent nous retrouver sur internet penchaksiladefense95.fr ou sur Facebook également, on communique activement École de Silat Défense Adamoise. Je tiens également à remercier Olivier Morel qui nous a mis en relation.
Oui, c'est vrai.
Donc bonjour à lui, je pense qu'il écoute l'émission.
Et certainement, on lui fait un coucou, voilà. À Olivier. Mais merci à vous, Jérémy, puisque c'est vous qui avez. C'est vrai que Olivier nous a mis en relation, mais c'est vous qui avez proposé à Dev et puis Cécile de nous rejoindre. Donc bravo pour cette association.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Je donnerai la parole peut-être à Dev en dernier. Cécile, un mot pour conclure.
Eh ben, je suis très reconnaissante aussi à Dev et à Jérémy de m'avoir invité aujourd'hui. J'avoue que la première question que j'ai posée à Dev, c'était « Penses-tu que je serais légitime dans mon intervention ?» Il m'a dit « Absolument ».
Complètement.
Et effectivement, je me sens assez... En fait, je suis assez contente de pouvoir partager mon ressenti parce que je pense effectivement que ça peut aider certaines personnes et certaines femmes.
Donc, je crois qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour parler des avantages que vous ressentez. Absolument.
Et merci beaucoup Jacqueline et l'équipe de nous avoir reçus aujourd'hui. C'était un grand plaisir.
Merci à vous, merci infiniment. Dev, voilà, les mots de la fin seront pour vous.
Merci Jacqueline, merci à toute l'équipe d'IDFM. Voyez-vous, on parlait de l'associatif, et bien je crois que je peux conclure mes propos en disant que ce que permet l'associatif, c'est de faire de formidables rencontres, Aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy, qui est avec moi depuis maintenant plusieurs années et qui, vous voyez, est complètement investi à mes côtés. Et puis Cécile, qui représente notre gente féminine et qui fait partie de nos élèves les plus assidus, à les écouter. Bah, je ressens une grande fierté d'être là, à cette place et à leur côté. J'ai aussi une pensée pour toute l'équipe enseignante qui m'accompagne dans l'enseignement de nos disciplines et puis le bureau de l'association, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Donc mes salutations à eux. Et puis bah, écoutez, j'invite les auditrices et les auditeurs à passer le pas. J'invite les femmes qui hésitent à suivre l'exemple de Cécile. Elles ne seront pas déçues. Et puis pour ce qui est des opérateurs économiques, nous en avons parlé tout à l'heure.
Oui.
L'association, notre association est très active, elle est reconnue, elle est bourrée de talent et elle mérite d'être connue.
D'être encore plus soutenue par des sponsors ou des mécènes, on
absolument.
A bien compris.
Oui. Absolument.
Vous définissez donc comme un acteur associatif et là aussi, moi je reconnais que vous avez tout ce talent et probablement c'est pour ça que votre école marche bien, c'est que vous savez transmettre vos valeurs et puis votre enthousiasme.
Merci beaucoup, merci. Merci.
Donc merci à chacun de la même façon pour d'avoir été déjà les invités de l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci pour ces belles interviews et puis on sent votre détermination et votre enthousiasme et ça il n'y a rien de mieux pour défendre une discipline. On vous souhaite de continuer tranquillement sur votre lancée, un vœu que je formule à chacun d'entre vous. Voilà, l'émission, on est un petit peu en avance, mais l'émission est terminée. Donc, c'est la fin de cette émission, cette première émission 2023. Merci, Francky, pour la technique. Merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourrez retrouver son podcast sur le site de la radio ou notre appli IDFM. À suivre à 11h, Christophe Gravreau et son émission Balade musicale. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 janvier 2023 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. D'ici là, belle journée et comme en 2022, continuez de prendre soin de vous et de vos proches. We'll be right back.